dois vous signaler qu'il y a l'annuaire aussi, la main sur la table, que Michael a revu complètement. Tu as donné une mauvaise adresse ? On pourra rectifier l'année prochaine pour toutes les erreurs. Voilà, si vous pouvez tourner dans 2 Chroniques, à chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit : Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui. Lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, hommes ou femmes. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Voilà, je vais m'arrêter là. Dans le monde, une des raisons avancées pour réfuter l'existence de Dieu, c'est que Dieu semble absent, en fait. Face aux catastrophes, face aux cataclysmes, la question c'est, mais où est Dieu dans ces situations-là ? Mais bien souvent, les croyants eux-mêmes ont cette question qui germe au fond de leur esprit. Souvent, ils ne l'expriment pas de cette façon-là parce que, bon, c'est pas bien vu depuis si longtemps. Je lis et j'entends que Dieu est avec moi tous les jours. On l'a dit ce matin. Mais pourtant, certains vivent avec, dans le cœur, cette impression que Dieu n'est pas présent. Ils sont en difficulté, ils réclament sa présence, mais apparemment Dieu ne répond pas. C'est vrai que si nous voulons être des croyants utiles, on va dire, pour le Seigneur, la présence de Dieu doit être effective. Elle doit être effective pour nous, elle doit aussi se voir dans notre quotidien. C'est-à-dire que les gens qui nous regardent, doivent savoir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui dérange ou il y a quelque chose qui attire. Mais il y a quelque chose chez cette personne. Il y a, si vous regardez dans le chapitre 1er de Jean, une question que pose Jésus. D'ailleurs, c'est la première parole de Jésus dans Jean 1. C'est une question. Que cherchez-vous ? Jésus pose cette question aux disciples, à deux disciples de Jean qui le suivent. Que cherchez-vous ? Et cette question m'a toujours fasciné parce qu'elle est beaucoup moins anodine que on peut avoir l'impression. C'est-à-dire que Jésus n'est pas en train de leur dire « Est-ce que vous avez perdu quelque chose? Est-ce que je peux vous aider ?» Que cherchez-vous? Et ce matin, j'aimerais que cette prédication, au-dessus de cette prédication, il y ait cette question. Que cherchez-vous? Vous? Moi? Aujourd'hui? En venant ce matin, que cherchez-vous? En lisant la parole de Dieu, que cherchez-vous? Dans votre vie quotidienne, que cherchez-vous? On est tous d'accord que la recherche de Dieu est une recherche qui doit se faire sérieusement. Et c'est un peu ce que Jésus posait comme question. Est-ce que vous êtes sérieux? Que cherchez-vous? Est-ce que vous êtes sérieux? On voit que ceux qui cherchent l'Éternel de plein gré l'ont trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Il y a, pour ceux qui cherchent, une récompense, le repos. Et donc j'aimerais que nous voyions, que nous passions par les étapes par lesquelles sont passées est passé Asa et son peuple, en l'occurrence le royaume de Juda, et d'autres, même ceux d'Israël qui se sont joints à eux après, qui sont passés par des étapes pour rétablir une situation qui s'était dégradée, et qui s'était dégradée depuis déjà un certain temps. D'ailleurs, si vous lisez Chronique, cette deuxième épître, vous voyez que, malheureusement, la dégradation va continuer. Avec des arrêts, mais la dégradation va continuer jusqu'à la destruction du temple. Et ça, c'est l'héritage de Salomon. Salomon qui avait si bien commencé et qui avait laissé un héritage spirituel si pauvre. Eh bien, ce matin, quel est votre héritage? Sur quoi bâtissez-vous? Sur quoi continuez-vous votre vie spirituelle? Ce que vous avez reçu, est-ce que cela vous sert pour avancer et progresser dans la foi? Ou est-ce que vous êtes en perte de vitesse? Est-ce que vous êtes en train de dégringoler? Je me retrouve dans mes notes. Concernant les deux disciples de Jean, il y a sans doute quelque chose qu'ils cherchaient. Et donc, je parlais du repos tout à l'heure. Ils n'avaient pas trouvé dans la loi, ni chez Jean-Baptiste, le repos. Hein, ils sont venus à Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, il est dit, n'était pas la lumière. Et c'est un peu Jean-Baptiste qui leur a montré le chemin. Il leur a dit, allez-y, c'est lui qu'il faut suivre. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à la suite de Jésus, parce que ils recherchaient ce repos. Il recherchait ce Messie qui allait leur donner ce que, presque intuitivement, parce que c'était dans leur éducation, c'était dans leur culture, ils savaient que ce Messie allait venir et que ce Messie serait un Messie de paix pour eux. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Ils lui ont posé cette question, « Où demeures-tu ?» Et Jésus leur a dit, « Venez et voyez. » Alors, je vais essayer de faire le lien avec ça. Dans cette première partie, au chapitre 15, donc, on voit que le Saint-Esprit est venu, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odette, et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Aza et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez. Vous le trouverez. Ma question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que la parole de Dieu nous est venue avec force de cette façon-là? Vous savez, ça n'est pas rien. Lorsque l'Esprit de Dieu se saisit d'un homme pour parler, alors il faut écouter. Ce n'est pas juste une communication. C'est Dieu qui vient sur terre, qui se saisit d'un homme et qui parle. Et des fois, je me demande si nous avons eu ce sentiment lorsque Dieu s'est adressé à nous. Si d'une certaine manière nous l'avons reçu comme cela, est-ce que c'était précieux? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui venait au bon moment et avec force dans nos vies pour que ça nous choque, pour que ça nous engage à agir, pour que ça nous engage à bouger? N'est-ce pas? Parce que on ne peut pas devenir un intime de Jésus-Christ en juste le suivant comme ça, les mains dans les poches. Il y avait des foules qui suivaient Jésus, mais ils n'étaient pas des intimes de Jésus. Mais là, il y avait deux hommes qui suivaient Jésus, et ce que eux cherchaient, c'était à devenir intimes de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux façons d'approcher. Celle où on cherche un peu par hasard, et celle où il y a un objectif. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes attirés, que nous voulons savoir. Hasard. Il est dit, était convaincu par l'Esprit de Dieu. Et il est dit, après avoir entendu ces paroles, verset 8, Aza se fortifia. Réellement, ça signifie entrepris avec vigueur et obstination, on peut le traduire comme cela, à faire disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Aza entreprit avec vigueur et obstination à faire disparaître les abominations de tout le pays de Juda. Il s'agissait sans doute de prostitution, il s'agissait sans doute d'évacuer tous les dieux familiers qui existaient chez les uns et les autres et qui avaient été ramenés aussi sans doute par Salomon, en tout cas par sa femme. Eh bien, parce que si on lit, regarde dans le chapitre 14, on voit qu'ils avaient déjà accompli un certain nettoyage en enlevant tous les dieux étrangers. Mais là, ils se concentraient sur des choses qui étaient plus proches de leur vie quotidienne, des choses qui les concernaient en tant que nation, des choses qui les concernaient eux, précisément, et qui venaient de l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, il s'est entrepris à évacuer cela, à les faire disparaître, ces abominations, du sein du pays. Le défi de ce roi, c'était de restaurer la spiritualité. C'était ça, l'important. Vous savez que David était spirituel. Ce n'est pas lui qui a construit le temple. Salomon a eu l'honneur de construire un temple à Dieu. Mais finalement, Salomon a terminé en adorant la forme du temple. Alors que David, n'ayant pas de temple, a adoré la forme de celui qui devait être l'habitant du temple, Dieu. Et des fois, j'ai peur que nous faisions cela. C'est-à-dire que nous commencions par adorer la forme de Dieu dans nos vies, Dieu lui-même, bien sûr, mais qu'une fois que les choses s'installent, une fois que les bâtiments existent, eh bien, on finisse par adorer l'enveloppe plutôt que ce qu'il y a, qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Vous comprenez cela? C'est que Salomon avait tout pour adorer le vrai Dieu. Et il a fini en adorant juste, rituellement, Dieu. David n'avait pas le temple, mais il adorait le vrai Dieu. Est-ce que nous sommes en mesure d'identifier le Dieu que nous adorons? Est-ce que nous adorons le Dieu du temple? Ou la forme du Dieu, l'enveloppe. Asa fait une deuxième chose. À la fin du verset 8, il restaura l'autel de l'Éternel. L'autel, c'était cette table en pierre ou en bois, initialement pour le tabernacle, c'était en bois d'acacia. Ensuite, ça a été transformé, et dans ce cas-là, je crois que c'était de l'airain. L'autel, c'était le lieu où on déposait les animaux qui devaient être sacrifiés. L'autel symbolise la croix et l'endroit où Jésus a été sacrifié, immolé pour nos péchés. Il restaura l'autel, ça signifie quoi? Ça signifie que depuis longtemps déjà, l'autel n'était plus en fonction. Ça signifie que depuis longtemps, il n'y avait plus de prière pour le pardon des péchés. Ça signifie que le peuple vivait sans le pardon de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, notre autel, notre table est en bon état? Est-ce que ce moment où nous adressons à Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés est un moment qui est sérieux? Que cherchez-vous? Oh Seigneur, j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes de tous ordres. Le Seigneur va agir. Ne vous inquiétez pas, il répond à cela. Mais ça concerne d'autres personnes. Toi, toi qui me suis, que cherches-tu? Est-ce que, frères et sœurs, lorsque nous avons le sentiment que nous devons demander pardon à Dieu, nous le faisons comme une prière rituelle, le soir, histoire d'avoir bonne conscience lorsqu'on ferme les yeux? Ou est-ce que nous prenons au sérieux ce moment? Est-ce que nous restaurons cette table pour qu'elle soit en état de fonctionner? Parce que si c'est vrai que nous le faisons sérieusement, alors il n'y a dans nos vies aucun problème. Nous n'avons rien à reprocher à qui que ce soit autour de nous. Nous n'avons pas de grief contre les uns et les autres dans l'assemblée. Parce que nous n'avons pas de grief dans nos familles. En tout cas, pas de notre faute. Parce que nous avons pris sérieusement compte que, de notre point de vue, nous avons demandé au Seigneur que nous soient pardonnées nos fautes là où nous sommes responsables. Est-ce que nos tables, est-ce que notre autel est restauré? Restaurer l'autel, c'est restaurer la fonction réelle de la croix dans nos vies. Lui redonner cet aspect central. Restaurer l'autel, c'est aussi revoir les motivations de nos cœurs. Vous savez, on peut dire que le culte est un sacrifice que nous offrons à Dieu, certes. Les moments de réunion, normalement, devraient tous être des sacrifices. Nous sommes sur l'autel, d'une certaine manière. Et nous offrons à Dieu des choses, des chants, des prières, des louanges. Est-ce que c'est un sacrifice de bonne odeur? On sait que Dieu était écœuré de ce sacrifice d'animaux qu'il ne pouvait pas agréer parce que le cœur des gens était tordu. Mes frères et sœurs, c'est la même chose aujourd'hui. Si nos cœurs sont tordus alors que nous prions, que nous entrons dans l'église, que nous soyons à la maison ou n'importe où ailleurs, ce que nous offrons n'a pas de valeur. Et Jésus encore se retourne et dit: que cherchez-vous? D'où l'importance de restaurer l'autel. Que la pratique qui est liée à l'autel soit purifiée. Que à nouveau le pardon des péchés soit effectif dans la vie quotidienne. Plus loin, on lit: il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem. Ils s'assemblèrent. Le temple était vide avant la restauration de l'autel. Il n'y avait plus personne qui venait. Et là, à nouveau, une fois l'autel restauré, ils ont pu s'assembler. Parfois, je ne vous le cache pas, lorsque je viens le mardi, je me demande: si le temple est vide. Oui, je sais que l'église n'est pas le temple. Mais lorsque je vois que, ou le vendredi, lorsqu'aux réunions de prière, nous sommes 3, 4, 5, je me demande où sont nos cœurs, à quoi, vers quoi sont-ils attirés. Est-ce que les raisons du rassemblement ont disparu? Est-ce que le dimanche, c'est juste encore le jour du Seigneur? Voilà, on va chez les évangéliques, on va chez les catholiques, on va chez les protestants, on va chez les témoins de Jéhovah. Finalement, on est tous là le dimanche, assemblés. Vous savez, les raisons sont nombreuses, et il y en a sans doute des valables, et ce n'est pas des raisons que je cherche. Mais je veux savoir, en tout cas je veux que vous sachiez, vous, où est votre cœur, où est votre raison de vous assembler. J'ai personne en tête, faites-moi confiance, ce n'est pas non plus, ne prenez pas cela comme une accusation, mais vraiment c'est une question que je vous pose. Est-ce que cela a un intérêt de se réunir et de prier ensemble? Les moments de prière sont des fois longs, pénibles, difficiles. On a envie de dormir. Vous savez, moi je préfère que quelqu'un vienne et dorme plutôt que pas venir. Il y avait un homme de Dieu en Angleterre que Janet connaît, qui s'appelait Mr. North. Un jour, quelqu'un est allé le voir dans son bureau et il était dans son fauteuil avec sa Bible, comme ça. Et il s'approche et il va le voir comme ça et... « Oh, frère, tu dors ?» Non, j'étais en train de prier. » Bien sûr qu'il était en train de prier. Qu'est-ce que ça peut faire de s'endormir lorsqu'on prie? C'est glorieux. C'est glorieux. Quel est le problème? Oui, mais Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas veiller avec moi une heure. Ne confondez pas tout. Il faut restaurer l'autel. Et après, il faut se rassembler. Il faut se rassembler parce que le culte, c'est pas juste le dimanche matin. Le culte, c'est tous les jours. Le culte, c'est une vie avec Dieu. Lors du réveil au Pays de Galles, les gens qui venaient à l'église étaient des mineurs. Des mineurs de fond, pas des mineurs. Des mineurs de fond. Des gens qui travaillaient des journées de 12 heures. Ils allaient à leur travail le matin, vers 4h30, 5h. Ils travaillaient une journée entière. Le soir, ils étaient à la réunion. Et certains, qui peut-être commençaient plus tard, étaient même le matin à la réunion, avant d'aller au travail. Et c'était sans arrêt, comme cela. Ah oui, mais c'était le réveil, c'était l'onction spéciale de Dieu. Est-ce que vous êtes censés vivre hors du réveil, frères et sœurs? Est-ce que les uns et les autres, nous sommes censés vivre hors du réveil? Nous sommes censés être réveillés tout le temps. Si nous ne sommes pas réveillés, nous sommes endormis, n'est-ce pas? C'est assez logique. Je ne crois pas que ce soit ça la vie que le Seigneur nous propose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous serez endormis. Non, je vous donnerai du repos. Ça n'est pas pareil. Vous pouvez vous reposer, c'est-à-dire vivre votre vie avec moi dans le repos, à condition que vous ne m'abandonniez pas. C'est ce qui est marqué dans ce texte. À condition que vous veniez, à condition que vous soyez présent. Parce que si vous n'êtes pas présent, eh bien moi je ne serai pas présent non plus. Ce n'est pas un prêté pour un rendu. C'est simplement que Dieu a une direction dans laquelle il marche. Il a un plan, il a des objectifs, il sait ce qu'il veut faire. Il n'est pas juste, il n'est pas prêt à en dévier parce que nous ne faisons pas le peu que nous devons faire. Il ira au bout de ce qu'il s'est prescrit. Et si nous voulons être avec lui, nous devons marcher avec lui, le rechercher. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 14, dit « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » N'est-ce pas, si nous nous retrouvons à quatre pour prier, on a vraiment l'impression que le corps se réduit à peu de choses. Comme disait Jean-Paul, c'est vrai, on peut, dans le spirituel, tout... Et on peut tout faire, voilà, en pensée, avec Internet, le virtuel, aujourd'hui, on sait comment ça marche. On peut aussi mettre un pasteur virtuel ici, hein, on peut mettre l'écran, et voilà, pourquoi pas. Un prédicateur, je voulais dire, en fait. Vous comprenez? Mais quel est le sens, alors, de cela? Plus loin, ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne d'Asa. Et ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené. Le peuple avait déjà remporté des victoires militaires. On le voit hein, dans le chapitre 14, comme j'ai dit avant. Et ils avaient, je vais vous le lire rapidement, il brisa 14 verset 3, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Donc, tout cela, ça avait déjà été fait. C'est-à-dire qu'avant la restauration, de l'autel, du temple, Dieu avait déjà agréé ce peuple. Il, d'une certaine manière, il l'avait déjà récompensé en disant « C'est bien ce que vous avez fait. Vous avez enlevé tous les dieux étrangers. Tous ces dieux-là, ces gros dieux, ces choses énormes dans ce pays qui font tâche, vous les avez enlevés. » Et moi, j'ai trouvé ça très encourageant. Dieu ne nous demande pas de faire des choses immenses, difficiles, n'est-ce pas? Dieu se cherche, mais il se laisse trouver facilement. Et il a accepté ce premier effort. Il l'a accepté et il l'a récompensé en étant déjà avec eux, parce que tout de suite après, ils ont remporté une bataille énorme. Où 1 million d'Éthiopiens se battaient contre eux et ont été arrêtés par l'armée d'Israël, de Juda, qui était beaucoup plus petite. Eh bien, c'est comme ça que Dieu veut nous voir. Commencez, s'il le faut. Ôtons déjà les grandes choses de nos vies. Ôtons déjà ces choses qui nous bouchent l'horizon complètement. Et Dieu accepte cela déjà. Dieu va nous encourager pour que nous continuions dans cette démarche. Ensuite, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, hommes ou femmes, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. C'est menaçant. Ceux qui ne recherchaient pas l'Éternel devaient être mis à mort. Cette menace, en fait, montre simplement que ce peuple venait de réaliser à quel point c'était sérieux. À quel point il ne pouvait se passer de vivre en présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas mettre à mort qui que ce soit, n'est-ce pas? Il faut le préciser parce qu'au micro, on ne sait pas ce qu'on peut entendre sur Internet, n'est-ce pas? Donc, on ne met pas les gens à mort dans les assemblées évangéliques lorsqu'ils ne suivent pas le Seigneur. Mais par contre, la mort des personnes, la mort spirituelle est assurée s'ils ne prennent pas l'engagement de servir le Seigneur. C'est presque automatique, on va dire. C'est que le déclin vient. À partir du moment où on s'engage à l'inverse, c'est-à-dire que là, il s'engage à suivre, il s'engage à dédier du temps à Dieu. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on se consacre à ne pas rechercher l'Éternel, à ne pas dédier du temps à l'Éternel, alors cette mort spirituelle va survenir d'elle-même. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je me permets d'insister sur le corps, les membres ensemble. On n'est pas obligé de venir à toutes les réunions, ce n'est pas de ça que je parle. Par contre, une église fonctionne avec une unité de cœur qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Et on marche tous dans un même sens. On peut avoir des divergences de vues, d'opinions, plein de choses comme ça. Mais on marche avec, à l'esprit, cette même volonté qui est affichée là. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils avaient fait un serment. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Parce que ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est de trouver une stabilité spirituelle dans l'Église. Entre nous. Pour que lorsque le monde nous voit, il voit des gens qui sont unis et qui s'aiment. Et que cela les trouble. Que cela les touche. Et qu'ils se disent, mais toute ma vie, j'ai cherché quelque chose comme cela. Et je ne l'avais pas découvert jusqu'à aujourd'hui. Ici, je sais que je peux trouver quelque chose pour moi. Je sais que là, Dieu est présent. C'est pour ça, frères et sœurs, que les rassemblements, qu'il s'agisse des réunions de prière, des études bibliques, d'autres réunions sont importantes pour que nous soyons reconnus comme étant un seul corps. Avec nos spécificités à chacun, nous sommes des individus et il n'est pas dit que nous devons avoir tous la même tête et que nous devons ne voir qu'une tête, mais que pour ce qui est de l'essentiel, les gens sachent que nous sommes attachés au Seigneur, que lorsque nous prions, nous sommes d'un même cœur pour les sujets pour lesquels nous prions. que lorsque nous chantons, ce n'est pas juste chacun dans son coin, mais qu'il y a une unité qui monte vers le Seigneur. Le Seigneur nous connaît individuellement et nous serons jugés pour ce que nous sommes individuellement. Mais les rencontres, le corps de l'Église est lui aussi l'habitation de l'Esprit de Dieu. Il y a les deux aspects dans la parole. À chacun, nous sommes temple du Saint-Esprit, la communauté elle-même est temple du Saint-Esprit. Mais si nous hésitons à nous rassembler, je crois sincèrement que Dieu en souffre. Et je prie que le Seigneur vous ait touché, vous ait alerté de ce point de vue-là, et qu'il puisse vous convaincre dans les jours qui viennent de la nécessité de se rassembler. Et même si vous endormez à la réunion de prière, venez, je vous en prie. Et vous verrez que si vous venez avec dans le cœur l'envie d'être avec les frères et sœurs, mais aussi et surtout de rencontrer Dieu comme un corps, une réunion de prière peut être beaucoup plus animée que ce que nous connaissons actuellement. Et puis si vraiment, on peut faire un tour dehors et revenir. Ça m'est arrivé, moi. Ce n'est pas le problème. C'est est-ce que je suis de tout cœur avec le corps de Christ. Le corps n'est pas un seul membre. Il est tous les membres. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Seigneur, nous ne voulons pas hésiter à restaurer l'autel et à nous réengager aujourd'hui devant toi à te chercher, à chercher ta face. Nous voulons, Seigneur, être sérieux et lorsque tu te retournes pour nous demander « Mais que cherchez-vous ?» nous puissions dire « Seigneur, nous voulons continuer à demeurer avec toi. Nous voulons rester avec toi et nous voulons que notre vie soit une vie de repos. » Même si elle est agitée en tous sens par diverses difficultés, par les frustrations, par la persécution dans certains pays, Seigneur, nous savons qu'auprès de toi, il y a le repos. Et Seigneur, ce que nous voulons communiquer autour de nous, c'est le repos de Dieu. Ce que nous voulons dire aux uns et aux autres qui recherchent Dieu, ce que nous voulons montrer, c'est que nous avons nous-mêmes trouvé le repos que eux recherchent. Seigneur, que nous puissions être des témoins vivants, consacré entièrement à l'Éternel, prêt à sacrifier au temple, Seigneur, et que tu puisses aujourd'hui à nouveau agréer nos prières et répondre. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun cette semaine et à mardi et vendredi. Donc.